Bonjour à chacun
et à chacune. Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole et le faire dans l'évangile de Luc au chapitre 8, un verset qui nous parle d'un conseil du Seigneur Jésus. Et je ne sais pas si vous aimez les conseils, mais quand ça vient du Seigneur Jésus, je crois qu'on y fait encore plus attention que d'habitude. C'est bien d'avoir des personnes autour de nous qui peuvent nous conseiller dans telle ou telle situation, d'avoir nos parents peut-être encore qui puissent être là quand on est dans des situations compliquées. Mais quand c'est le Seigneur Jésus qui nous parle concernant les choses de Dieu et le royaume de Dieu, combien c'est plus important. Luc chapitre 8, verset 18. On reviendra tout à l'heure dans le chapitre 8 de Luc. Mais là, on lit juste ce petit verset. « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Amen. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Donc rien que dans ce verset, on se rend compte qu'il y a une manière d'écouter la parole de Dieu. Il y a une manière de faire les choses et il y a une manière en particulier d'écouter la parole de Dieu. Et on voit qu'il y a un verset qui s'applique à d'autres passages aussi, mais qui s'applique à ce passage en particulier, à l'écoute de la parole. On donnera à celui qui a et celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Je ne sais pas comment vous comprenez ce verset et je ne sais pas si vous trouvez ce verset très, très juste. Parce qu'on peut se dire, mais après tout... Celui qui est riche, est-ce qu'il a besoin d'avoir encore? Est-ce que ce n'est pas le pauvre qui a besoin du surplus du riche pour que ça soit équilibré? Et c'est vrai que d'un point de vue des richesses matérielles, ça ne s'applique pas ce verset. On est d'accord. La Bible nous dit d'être généreux envers ceux qui sont dans la souffrance. Si on a deux tuniques, de la donner à notre prochain qui est dévêtu. Si on a trop à manger, de partager notre pain avec celui qui a faim. Mais là, on n'est pas dans le contexte des richesses matérielles. Et l'autre fois où cette phrase est donnée par le Seigneur Jésus, c'est celle que M. Gau rappelait ce matin par rapport aux 10 talents, aux 5 talents, aux 1 talent. Et à la gestion que ces personnes ont eue de ces talents. Et dans ce contexte dans lequel on est cet après-midi, c'est la façon dont on va écouter. C'est la gestion de ce que l'on a. Vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas grand-chance. Si vous regardez mon compte en banque, il n'est pas très fourni. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de ce que nous avons tous autant que nous sommes. Paul a dit à des philosophes grecs, il leur a dit, « En lui, nous avons la vie, le mouvement » et l'être. Déjà, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et comment est-ce que nous gérons cela? Mais cet après-midi, peut-être vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas toutes sortes de choses, peu importe, mais vous avez au moins une chose, vous avez l'occasion de recevoir la parole de Dieu et de bien la gérer, ou pas. Parce que ça, c'est entre vos mains. Le pasteur qui est au pupitre, il peut s'évertuer à annoncer la parole de Dieu, mais il ne peut pas forcer les personnes à la mettre en pratique. Ça ne dépend que de nous. Et ce verset nous dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Ça nous parle que si on écoute la parole de Dieu avec une soif, avec une faim, avec un désir de la comprendre, avec un désir de lui obéir, de la mettre en pratique, alors le Seigneur s'engage à nous donner encore plus. Mais si je choisis d'écouter la parole de Dieu d'une manière légère, si je choisis seulement de l'entendre, si je choisis d'avoir juste une oreille distraite, je sais qu'il faut venir au culte, je sais qu'il y aura une prédication pendant un certain nombre de temps, mais si ça s'arrête là, je vais même perdre cette parole dans mon cœur, et mon cœur, en plus de ça, en plus de perdre la parole, il va s'endurcir. Vous savez que quand on entend une parole du Seigneur, et qu'il la répète, et qu'il la répète, et qu'il la répète, et que nous on dit non, et que nous on dit non, et que nous on dit non, notre cœur s'endurcit. Voilà pourquoi cet après-midi, nous devons prendre garde à ce conseil. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. En français, on a une différence, on a deux mots qui expriment une réalité. On a le mot « écouter » et le mot « entendre ». Et est-ce que vous voyez la différence? Je crois qu'on ressent bien cette différence. Entendre, c'est juste se servir du sens de l'ouïe, se servir de nos oreilles. Mais ça ne veut pas dire qu'on est à 100% par rapport à ce que l'on entend. Tandis que écouter, c'est entendre plus quelque chose. Plus faire attention. Si on écoute un chant de la chorale, on va l'écouter, on va écouter les paroles, on va écouter la musique et se laisser transporter. Nos sentiments vont être touchés, notre cœur va être touché, notre intelligence va être touchée. Vous voyez, on peut seulement entendre, mais on peut aussi écouter. Et quand on regarde les paraboles que le Seigneur Jésus a données, plusieurs paraboles nous parlent justement de cette façon d'entendre. Il faut entendre, mais il faut y rajouter quelque chose. Et quand on regarde en particulier les paraboles du semeur, vous savez, le semeur qui sort pour semer la semence, et la parabole des différents terrains, on se rend compte que le Seigneur Jésus, il insiste sur le fait qu'il nous faut progresser dans notre manière d'écouter les choses. Je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais dans chacun des trois évangiles, cette parabole, elle y est, mais dans chacun des trois évangiles, la conclusion, elle est légèrement différente. Et c'est ce qu'on va voir cet après-midi. D'abord, dans Matthieu, il faut entendre et comprendre. Dans Marc, il faudra entendre et recevoir. Dans Luc, il faut entendre et retenir. Et surtout, au final, il faudra entendre et mettre en pratique, parce que sinon, tout ce qu'on a appris auparavant ne sert strictement à rien. Mais dans Matthieu 13, c'est un des chapitres de la Bible que je connais depuis des années et des années. Je me souviens, à l'école du dimanche, c'était une des premières leçons que j'avais entendues. Je ne sais pas à quel âge j'ai entendu cette histoire pour la première fois, cette parabole, mais je sais que ça remonte à des années en arrière. Matthieu chapitre 13, on peut lire à partir du verset 23. On ne va pas lire toute l'histoire, je vous laisse le soin de le faire. Vous savez, il y a différentes semences qui tombent dans différents terrains. Vous verrez de quelle sorte, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Mais surtout à la conclusion, à l'explication, parce que les disciples, à un moment donné, ils entendent la parabole, mais ils ne comprennent pas forcément. Et ils ont besoin de venir vers le Seigneur Jésus et de lui dire, « Seigneur, explique-nous les choses. » Et le Seigneur leur explique. Alors, on va lire au verset 18 quand même, pour comprendre toute l'explication. Matthieu 13, 18, « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et, qu'est-ce qu'il fait en plus de l'entendre ? Et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Amen. Et le but de la vie chrétienne, c'est que nous puissions porter du fruit. Mais pour cela, il faut entendre la parole. Et Jésus dans Matthieu, ce qui a marqué Matthieu quand il entendait Jésus raconter cette histoire, c'est qu'il a dit, il faut entendre et comprendre. Est-ce que c'est important de comprendre ? Est-ce que c'est important de comprendre la parole de Dieu ? Est-ce qu'il n'y a pas un verset en particulier qui nous montre que si on comprend ce que dit la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. La foi vient de ce que l'on comprend, ce que l'on entend, mais dans le sens de comprendre, de la parole de Dieu. Si je ne comprends pas la parole de Dieu, si je suis comme cette parole qui est là le long du chemin et qui est mangée par les petits oiseaux, la foi ne s'installe pas dans ma vie, la foi ne grandit pas en moi. Mais si j'entends la parole et que je la comprends, que j'utilise mon intelligence pour essayer de saisir ce que le Seigneur veut me dire, alors je peux comprendre. Quand on étudie littéralement ce qu'il est dit, comprendre c'est joindre deux choses ensemble, c'est-à-dire joindre une pensée avec une réalité, joindre deux choses ensemble, associer deux choses, associer l'idée théorique et l'objet. Et on voit par exemple dans Matthieu 13 au verset 19, donc c'est ce qu'on vient de lire, que Jésus reproche au premier personnage, c'est qu'un homme, il écoute la parole et qu'est-ce qu'il lui reproche ? Il ne la comprend pas. C'est un peu la personne qui met une séparation, puisque comprendre, c'est associer la théorie et la pratique. C'est la personne qui met une séparation, par exemple, entre le fait d'avoir une vie à l'église et le fait d'avoir une vie au dehors de l'église. Il y a des gens qui mettent une séparation entre ce que fait le cœur et ce que fait le corps. Ah, mais le cœur, c'est spirituel, et le corps, par contre, ben là, je peux faire ce que je veux. Et si on est dans cet aspect-là de la vie chrétienne, ben on n'a pas compris. Et la foi que l'on dit avoir, ce n'est pas la vraie foi. Les disciples, ils ont eu des moments où ils ont eu du mal à comprendre certaines choses. Ils ont mis du temps à comprendre certaines choses. Quand on voit, par exemple, à la fin de ce que Jésus explique, toutes ces paraboles, à la fin de ce chapitre, au verset 51, Jésus, il leur pose cette question, il leur donne toutes sortes de paraboles, mais surtout, à la fin, il s'intéresse à eux, il leur dit, au verset 51, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Et les disciples, qui étaient auprès du meilleur des maîtres, ils ont dit « Oui, oui, on a compris, Seigneur. » On a compris que même si on ne comprend pas les choses, c'est à tes pieds à toi que l'on peut comprendre. C'est à tes pieds à toi que l'on peut avoir ce discernement. Quand on voit que le Seigneur Jésus se manifeste après la résurrection, qu'il rentre dans la pièce où ils sont tous réunis, on voit que les disciples ils sont un petit peu perdus. Et alors, à un moment donné, il est dit que le Seigneur, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu avec ce désir que le Seigneur puisse vous ouvrir l'esprit? Il n'y a pas question là de l'Esprit Saint, mais c'est l'Esprit, l'intelligence de l'homme pour comprendre les Écritures. Est-ce que vous faites cette prière avant de lire la parole ou avant d'écouter le message? Seigneur, parle-nous, parle-moi cet après-midi, parle-moi ce soir quand je serai dans ma chambre, mais que ça soit la révélation de ton esprit qui parle directement à mon cœur, que je puisse recevoir quelque chose du ciel qui ait une portée éternelle et qui me fasse du bien encore dans ces instants. Moi, je l'avoue, à chaque fois que je lis la parole, c'est la prière que je fais. Seigneur, ouvre mon intelligence. Je ne veux pas seulement la lire, je l'ai fait trop souvent de la lire pour la lire religieusement, de comprendre que théoriquement il faut lire la parole, mais pratiquement de ne pas avoir la vie qui correspondait à cette parole. Et je dis, Seigneur, aide-moi à être vrai devant toi. Les disciples, ils ont mis du temps à comprendre, par exemple dans Matthieu 16, il y a une histoire qui se passe où Jésus doit prendre la barque avec les disciples, et à un moment donné, au verset 6, il leur dit « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens ». Et les disciples qui commencent à raisonner et à expliquer « C'est parce que nous avons pris des pains ». Jésus, l'ayant connu, dit « Mais pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ceux que vous n'avez pas pris des pains ?» Ils pensaient qu'il fallait qu'ils aillent acheter à la boulangerie du coin des pains et pas celle là où allaient les pharisiens. Et ils pensaient aux choses matérielles, alors que Jésus était en train de leur expliquer des choses spirituelles. Et ils étaient là en désaccord avec la parole de Jésus et la pensée qui s'en était faite. Et ils avaient besoin de comprendre, d'associer les deux. Et ce qui se passe, c'est que Jésus leur dit « Êtes-vous encore sans intelligence ?» Et il leur explique le miracle qui vient d'être fait. Au verset 11, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé ?» Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Et au verset 12, finalement, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement. Et il y a tellement de fois le Seigneur Jésus utilise des images. Des fois, on lit la parole, on ne connaît pas trop la parole de Dieu, et on s'attache à des mots, mais ce n'est pas ce qui est inspiré, ce n'est pas la compréhension qu'on a des mots. Ce qui est inspiré, c'est ce que Dieu a voulu dire. C'est le message que Dieu a voulu diffuser. Si nous, parce qu'on est dans le 21e siècle et qu'on comprend certains mots avec un certain sens et qu'on a du mal à les saisir, c'est pas ça qui est inspiré. Ce qui est inspiré, c'est ce que Dieu a voulu dire au moment donné où il a donné la parole. Et c'est à nous de faire attention au contexte et de comprendre que le tel mot, à l'époque, voulait dire quelque chose. C'est autre chose que ça veut dire aujourd'hui. Comprenez ? On peut se laisser piéger par ces aspects. Des fois, ils ont mis du temps à comprendre, mais des fois, ils n'ont pas du tout compris. Est-ce qu'on est des fois dans des situations dans nos vies où on ne comprend pas ce que le Seigneur nous dit? Je crois qu'il y en a. Il y a un moment donné, par exemple, les parents de Jésus qui sont venus le voir, ils étaient en train de le chercher avec angoisse quand il avait 12 ans, parce qu'il était resté dans le temple. Et à un moment donné, il leur dit « Mais pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Et il est dit de ses parents qu'ils ne comprirent pas. Ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Mais ton père, c'est Joseph. Et ils n'avaient pas compris, il y avait comme un voile sur leurs yeux qui était là. De même pour les disciples, dans Luc 18, je le lis pour vous, Jésus prend les 12 avec lui, il leur explique, il répand son cœur devant eux, il dit « Voici, je dois aller à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Il est en train de leur annoncer sa mort. « Il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et il est dit qu'ils ne comprirent pas. Ils comprirent rien à cela. Ils n'avaient tellement pas envie que ça arrive, ces choses-là. Ils avaient tellement fait une autre idée de ce qu'il allait se passer. Jésus, ça allait être le roi qui allait mettre le règne parfait sur la terre en Israël. Israël allait reprendre la place parmi les nations. Et c'est vrai que tout ça a été prophétisé, mais ils n'ont pas compris que ça concernait son second retour. Sa seconde venue, plutôt. Son retour prochain. Et ils ne comprenaient rien à cela. C'était pour eux un langage caché. Des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Est-ce que, des fois, on ne lit pas la parole de Dieu avec cet esprit-là, en disant, « Mais Seigneur, moi j'avais prévu ça dans ma vie, j'avais prévu tel ou tel projet, et quand je lis ta parole, ben, c'est comme un langage caché, je ne comprends rien. » Est-ce que la parole de Dieu, Dieu l'a donnée, mais en laissant exprès un mystère pour que, laisser une distance entre le spirituel et nous, pauvres humains? Ou est-ce que Dieu n'a pas dit, « Venez à moi. » Je vous ouvrirai l'esprit. Le Seigneur Jésus qui était capable d'ouvrir l'esprit. Le secours se trouve dans la présence de Dieu. Et dans ce cœur vrai qui va dire au Seigneur, « Seigneur, ouvre-moi l'esprit. » Marc chapitre 4, verset 20 nous dit la seconde chose. Il faut entendre et comprendre, mais aussi entendre et recevoir. On va lire seulement la conclusion, puisque la parabole est la même. Marc chapitre 4, verset 20, c'est la conclusion donc. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Recevoir, entendre et comprendre, c'est déjà très bien, mais entendre et recevoir, est-ce que vous voyez la différence, l'évolution, la progression qu'il y a entre le fait de comprendre la parole? Le fait que l'intelligence saisisse les réalités, mais aussi le fait de la recevoir. Quand on étudie aussi le terme de manière littérale, c'est recevoir quelque chose de main en main. C'est accepter, c'est surtout accueillir dans sa maison. C'est comme si on accueille quelqu'un, on offre l'hospitalité à quelqu'un pour qu'il vienne demeurer chez nous. Si Jésus était en chair et en os au milieu de nous, qui est-ce qu'il aimerait bien l'accueillir dans sa maison? Jonathan. Et Lisette, c'est bien. Bon, tant pis pour les autres. Hein. En tout cas, et moi, j'ai pas levé, mais moi c'était sous-entendu. Hein. Et comment vous le feriez? Je crois qu'on se donnerait le maximum pour que le Seigneur Jésus soit au mieux possible dans notre maison. Et on comprend que le fait d'accueillir quelqu'un dans sa maison, ça nous demande de nous investir, ça demande de le faire de manière correcte. On n'accueille pas quelqu'un en disant « Bon, mais tu t'assois au coin de la table là parce que tu n'as pas de place et puis tu dormiras par terre parce que bon, mais de toute façon, nous on a nos chambres, on ne veut pas te laisser la place. » On comprend que si on accueille quelqu'un, on va s'arranger. Si nous-mêmes on doit dormir par terre, ben, on préfère dormir par terre, mais plutôt l'offrir le bon lit à l'autre personne. C'est comme ça qu'il faut recevoir. D'ailleurs, il y a un passage qui nous parle de comment Dieu nous a reçus. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge, il corrige tous ceux qu'il reconnaît. Pour ses fils, littéralement, c'est tous ceux qu'il reçoit dans sa famille comme ses enfants. Le Seigneur Tout-Puissant nous a reçus dans sa famille comme ses enfants. Est-ce que vous croyez qu'il a fait à moitié le Seigneur? Il a fait de manière entière, totale. Maintenant, nous sommes, par sa grâce, par l'Esprit, nous sommes les enfants du Seigneur. Avec tout ce que cela implique. Mais, quand on lit dans Marc 4, verset 16, on voit justement le reproche qui est fait dans le deuxième terrain. Les autres, pareillement, reçoivent la semence. Dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, qu'est-ce qui se passe? Ils y trouvent une occasion de chute. Ce qui nous fait dire qu'il y a recevoir et recevoir. Parce qu'à la fin, le Seigneur Jésus conclut, entendez et recevez la parole. Mais là, il dit, mais ceux-là, par contre, ils reçoivent la parole. Alors, ça pourrait nous prêter à confusion, cette histoire. Mais parce que, justement, les mots qu'ils ont employés ne sont pas les mêmes. Et je ne sais pas pourquoi, et je me demande encore pourquoi, les traducteurs français ont choisi de mettre deux mots pareils, alors qu'ils ne sont pas les mêmes dans le grec. Et qui nous prêtent même à confusion. Parce que les deux recevoirs qui sont là, il y en a un qui veut dire accueillir dans sa maison, accueillir, prendre soin, donner toutes choses pour que la personne soit bien au milieu de nous. Et puis, il y en a un qui veut juste dire transporter, porter d'un endroit à un autre. Je veux dire, quand on accueille quelqu'un chez nous, on l'amène pas juste devant la maison et puis c'est tout. Hein. On l'accueille dans notre maison. Vous comprenez la différence? Ceux qui la reçoivent avec cette joie-là éphémère, c'est ça que le Seigneur Jésus met en relief. C'est pas la bonne façon dont il faut. Il faut pas juste porter la parole. Il faut pas juste avoir la parole dans notre sac ou dans notre voiture ou dans notre maison. C'est pas ça qui va faire que Dieu va venir. Il faut la recevoir, l'accueillir au plus profond de son cœur. Il ne faut pas juste être touché par les sentiments. Ils la reçoivent avec joie. Est-ce qu'on peut avoir de la joie en lisant la parole? Je veux dire, quand on voit toutes les promesses qu'il y a de la part du Seigneur, même quelqu'un qui est inconverti peut lire la parole avec joie. Parce qu'il se dit, mais mince, Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de grâce, il propose le salut, il propose le pardon des péchés, ça peut être quelque chose qui nous réjouit. Oui, mais si on ne le reçoit pas dans notre cœur, ça ne sert à rien. Et cette joie, elle va disparaître rapidement. Ils n'ont pas de racines car le sol est plein de pierres, plein de cailloux. Ça nous parle des péchés qui sont intérieurs, des choses qui sont là dans nos vies et qui empêchent que la parole de se développer. Est-ce qu'il n'y a pas cet après-midi un péché qui est dans notre cœur, que par nous-mêmes c'est impossible qu'il soit déplacé? Est-ce que cet après-midi, ce n'est pas l'occasion pour dire « Seigneur, par ton esprit, sonde mon cœur, qu'il y ait ce travail dans le terrain de mon cœur pour que les cailloux soient mis à jour, qu'ils soient sortis. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par notre puissance, c'est par l'Esprit de Dieu que tout cela peut se faire parce que le Seigneur Jésus a payé de sa vie pour que notre péché soit effacé. Et cet après-midi, quelqu'un a peut-être besoin de dire, Seigneur, regarde ce caillou qui est là dans mon cœur. Je comprends que je peux pas. Je voudrais recevoir ta parole, mais il y a trop de cailloux qui sont là, qui prennent la place. Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur, je te demande pardon. Ils entendent pour un temps, ils manquent de persistance. Ça nous parle de ceux qui croient de cette manière, de manière éphémère, qui croient peut-être pour le temps de la réunion. Et puis une fois qu'ils sont arrivés à leur voiture, ils oublient toute chose, la radio s'allume et tout de suite leur esprit replonge dans les choses de ce monde. Ils trouvent une occasion de chute. Vous avez vu l'image qui est donnée pour l'épreuve, c'est l'image du soleil. Dans le contexte de la parabole de la semence, réfléchissons un instant. Le soleil, est-ce que c'est utile pour que la semence puisse pousser? Enfin, pour la plante, une fois qu'elle a poussé. C'est utile. Mais si la plante est face à la chaleur du soleil, qu'il y a un soleil intense, pas comme aujourd'hui, mais comme on aime bien qu'il y en ait de temps en temps, et que la plante n'a aucune racine, c'est ce que dit le Seigneur, si elle n'a aucun endroit pour puiser de l'eau, pour se rafraîchir, ce qui se passe, c'est que ceux qui devaient contribuer à la faire grandir l'amènent à mourir. Et vous comprenez très bien l'explication, la transposition spirituelle de cette image, que nous avons besoin, quand nous sommes dans l'épreuve que le Seigneur permet parce que c'est pour nous faire grandir, nous avons besoin d'avoir de la profondeur dans la présence de Dieu, de savoir puiser dans les torrents d'eau vive que le Seigneur fait couler dans sa présence, dans le lieu secret. Alors, là on a expliqué ce que c'était que de mal recevoir la parole, mais moi je voudrais aussi expliquer comment bien la recevoir, parce que c'est quand même le plus important. Regardez trois choses, acte 17, verset 11. Trois exemples de façon dont il faut bien recevoir la parole. Acte 17 et le verset 11. Il est question des chrétiens de Bérée. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et regardez ce qu'il est dit. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce que l'on leur disait était exact. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement pour examiner si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que c'est la manière dont vous avez de recevoir la parole cet après-midi et puis tous les jours de votre vie ? Oui, je veux la recevoir parce que c'est la parole de Dieu, mais je veux vérifier que ce qu'on me dit, c'est pas de l'invention humaine. Je veux vérifier que c'est la parole de Dieu, que c'est pas une parole d'un homme, que c'est pas une interprétation humaine, mais que c'est le Saint-Esprit qui parle à mon cœur. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Une autre façon. Et là, qui est très... à l'opposé de la parabole, vous allez comprendre, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 6. « Vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Avec quoi ? La joie du Saint-Esprit. » Vous avez vu la différence avec le terrain qui a cru pour un temps, là, le cœur qui a cru pour un temps. Il y a eu la tribulation et il a reçu avec joie, mais une joie éphémère. Alors que là, ils ont reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec une joie particulière, c'est celle du Saint-Esprit. Est-ce que cet après-midi, quelqu'un n'a pas besoin de dire « Seigneur, je veux ». Je suis dans l'épreuve, je suis au milieu de beaucoup de tribulations, mais je ne veux pas croire pour un temps, je veux avoir la joie du Saint-Esprit qui a envahi mon être. Est-ce que vous croyez que c'est possible, que c'est faisable, que c'est réalisable, que le Seigneur déverse sa joie divine dans notre cœur, alors que nous sommes au pire du creux de la vague? Est-ce que c'est possible? La preuve, c'est que ça a été fait pour les Thessaloniciens. Mais est-ce que c'est possible pour nous aujourd'hui? Oui, c'est possible. Et on voit joie, on voit des personnes qui sont dans des épreuves difficiles, compliquées, et qui débordent de cette joie du Saint-Esprit. Et combien on croit ce qui est dit par la suite. Du coup, vous êtes devenus des modèles. Quand on a cette attitude dans l'épreuve d'avoir la joie du Saint-Esprit, de transparaître la joie alors que qu'on a toutes les épreuves qui se succèdent les unes aux autres, on est un modèle. Combien c'est encourageant pour chacun. Je finis cette partie, vous inquiétez pas, les autres ne seront pas longues. Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques chapitre 1, verset 21. Un autre moyen de bien recevoir la parole. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur. Quand la parole, elle est bonne, quand la parole, elle nous fait du bien, quand la parole, elle nous caresse dans le sens du poil, on peut la recevoir avec douceur, c'est facile. Mais quand la parole, elle nous reprend sévèrement, quand la parole, elle met à jour ce qui est mauvais en nous, est-ce qu'on la reçoit avec douceur? Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous voulez bien recevoir la parole? Vous voulez non seulement l'entendre, mais bien la recevoir? Choisissez de la recevoir avec douceur. Que ça soit dur, que ça soit facile, que ça soit sévère, que ça soit bon, Seigneur, c'est ta parole, je la prends, je la reçois. Et avec douceur, je m'humilie devant toi. Avec douceur, je l'emmagasine et je la laisse travailler en mon cœur. Et dans Luc, chapitre 8, on revient à ce passage. La troisième conclusion, entendre et comprendre, entendre et recevoir. Luc 8, verset 15. Il est question d'entendre et de retenir. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Retenir, ça veut dire garder en sûreté, ça veut dire empêcher de partir. Est-ce que nous veillons à ce qu'il y ait une progression dans la façon dont nous entendons la parole? Est-ce que cette parole que nous entendons peut-être le dimanche matin ou le dimanche après-midi, nous la travaillons dans notre cœur, nous la laissions travailler dans notre cœur? Je sais que M. Gault souvent me disait que quand il était jeune, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des notes par rapport aux prédications qu'il entendait, et que dans son culte personnel, c'est ça qu'il prenait pour se placer devant le Seigneur et pour repenser à tout ce qu'il a entendu, pour pas que ça soit seulement des paroles mortes, mais que ça prenne vie dans la présence du Saint-Esprit, dans sa vie à lui. Est-ce que c'est pas une bonne façon de procéder que de dire, Seigneur, je veux retenir ta parole, je veux la garder ta parole, je veux la garder, et je veux m'assurer surtout qu'elle grandit bien, parce que le problème, c'est qu'on peut retenir injustement la parole. Ça vous fait pas penser à un passage, ça? dans les Romains, chapitre 1er, je vous le lis pour vous, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et par la suite, c'est expliqué, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on la considère dans ses ouvrages. » Je ne sais pas si vous aimez vous promener dans la montagne ou dans la forêt ou quel que soit l'endroit naturel où vous pouvez vous promener et ou en seulement regardant le ciel la nuit et les étoiles, si vous vous éloignez un peu de Toulouse et de la pollution, et que vous voyez ce beau ciel avec ces milliers, ces milliards d'étoiles. Je ne sais pas quel est votre sentiment. Et hier, une jeune fille me montrait un petit questionnaire et il y avait des questions que je vais... juste une question que je vais vous donner. Que faut-il pour fabriquer une horloge? Attention, c'est un choix multiple, parce que c'est dur. Hein, un boulanger, un pompier ou un horloger? Vous allez comprendre. Alors, troisième, hein, bon. Que faut-il pour fabriquer une toile de maître? Un architecte ou un artiste peintre? Bon, on est d'accord. C'est évident, hein, quelle question. Que faut-il pour fabriquer un vase? Un boulanger, un pilote d'avion, un potier. Bon, troisième réponse, le potier. Que faut-il pour fabriquer l'univers? Le hasard, un Big Bang ou un créateur? Et vous voyez qu'on a l'impression qu'on nous prend pour des idiots quand on remplit les premières questions, mais que quand on arrive à la quatrième, on se retrouve là devant l'univers. Et dans l'univers, est-ce qu'il n'y a pas des vases? Est-ce qu'il n'y a pas des horloges? Est-ce qu'il n'y a pas des toiles de maître en nombre? Et tout le reste. Et pour ça, on va dire que c'est le hasard. Alors que pour une horloge, mais non, ce n'est pas possible. Une horloge, il faut qu'il y ait un horloger qui soit là avec ses petits instruments minutieux, sa grosse loupe qui lui fait un œil énorme. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière. Et pour l'univers qui contient des centaines et des milliers d'objets, d'êtres humains, des milliards d'êtres humains, on pense qu'il n'y a pas de créateur. Voilà comment on retient la vérité captive. C'est quand on regarde autour de nous et qu'on choisit de refuser ce créateur. Quand on lit la parole, qu'on entend que Dieu a créé le ciel et la terre, mais qu'on regarde autour de nous et nous on dit « Moi je veux vivre que pour ce qui est passager, ce qui est matériel, que pour ce que je vois. Voilà pourquoi je veux vivre. » Oui, on peut mal retenir la parole en laissant les épines étouffer cette parole. Et ces épines vont empêcher la progression. Ce qui est tombé parmi les épines, nous dit le verset 4 de Luc, de chapitre 8, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Le résultat, c'est qu'ils n'ont point de fruits qui viennent à maturité. Il y aura peut-être des fruits, mais des fruits microscopiques, qui vont faire que les gens vont se trouver entre deux chaises un petit peu. Ah oui, j'ai prié, bon le Seigneur a agi, mais il n'a pas agi comme j'aurais aimé. Et ça fait des gens qui sont frustrés, ça fait des chrétiens frustrés, ça fait des chrétiens qui n'ont pas l'assurance dans la prière, ça fait des chrétiens qui n'ont pas d'assurance devant Dieu. Mais bien retenir la parole, c'est tout autre chose. Ça commence, par rapport aux soucis, à s'en décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ça commence par rapport aux richesses, à dépendre de Dieu et à compter sur le Dieu de provision. Ce verset qui a été dit ce matin dans le bon contexte, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Est-ce que ça ne vous rassure pas de savoir que Dieu est capable de pourvoir à tous vos besoins? Bien sûr, souvenez-vous ou écoutez le message ce matin pour bien savoir quel est le contexte de ce verset. Et par rapport au plaisir de la vie, aux mauvais désirs qui peuvent monter dans notre cœur, Pierre dit, « Bien-aimé, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » À les rejeter, à s'en abstenir, à le faire mourir, comme on le disait dans les Colossiens. Retenir la parole, c'est ça. C'est dépendre de Dieu en toutes choses. Et on fait cette dernière lecture au verset 19. Luc 8, verset 19. Donc c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Alors on lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Et regardez la réponse du Seigneur qui nous interpelle quand même. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous entendez? Vous aimeriez bien que votre fils il vous dise ça? Moi, ça me ferait bizarre si mon fils me disait ça, mais là, c'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur Jésus. Et qui nous montre l'importance. L'importance de mettre en pratique. Oui, on a besoin d'entendre et de comprendre. On a besoin d'entendre et de recevoir. On a besoin d'entendre et de retenir. On a besoin d'entendre et de mettre en pratique. Cet après-midi, comment est-ce que nous avons écouté ce message? Comment est-ce que nous avons écouté, depuis que nous sommes chrétiens, tous les messages? Comment est-ce que nous lisons la Bible? Parce que ce n'est pas seulement le fait d'écouter, mais c'est surtout par nous-mêmes. Qu'est-ce que nous retirons de ce livre merveilleux que le Seigneur nous a donné? Cette lettre d'amour, ce mode d'emploi pour que nous puissions être heureux. Il y a quelqu'un qui voudrait être heureux cet après-midi, qui voudrait goûter au vrai bonheur. Quand on lit, par exemple, les psaumes, on voit que le psaume, un, commence par cette vérité qu'on peut être heureux. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, etc. Mais qui met sa confiance et qui médite la parole jour et nuit. Qui met son espérance dans ce livre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ah oui, là, la semence qui était toute petite, si elle est devenue un arbre, elle va porter beaucoup de fruits. Et le seul moyen, c'est de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Prions le Seigneur. Et laissons le Saint-Esprit peut-être dans ces instants remuer notre cœur. Choisissons de faire cette prière au Seigneur et en lui disant, Seigneur, par ton esprit, oui, que tu puisses être ce laboureur dans mon cœur, dans le terrain de mon cœur qui a besoin d'être labouré pour que les pierres soient mises à jour. Seigneur, oui, je veux veiller, je veux retenir s'il y a des choses qui sont là, qui voudraient étouffer la progression de cette semence dans mon cœur. Tu vois, les soucis de la vie, Seigneur, combien ça peut me préoccuper. Oui, mais je choisis de me décharger de ces choses. Je choisis de te faire connaître tous mes besoins, Seigneur. Oui, si c'est les richesses qui occupent mon cœur, Seigneur, je ne veux pas que ça étouffe ma vie. Je ne veux pas que ça empêche ta parole de grandir. Oh, Seigneur, mais je veux compter sur toi. Oui, même si j'ai un travail qui paye bien moins, mais que j'ai le temps de passer que j'ai le temps de me tenir devant toi, eh bien, Seigneur, je veux le faire, je veux le choisir. Seigneur, oui, dans ces instants, révèle-toi à mon cœur encore. Je veux être ce serviteur, cette servante qui écoute ta parole et qui la reçoit. Et pour toi, mon ami, qui ne connais pas encore le Seigneur, accepte dans ces instants de recevoir la parole. La simple parole que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Cette parole, elle est tellement facile à comprendre. Même un enfant peut le comprendre. C'est ce que j'ai compris quand j'étais tout petit, quand j'ai entendu ces messages pour la première fois, ces paraboles pour la première fois. J'ai compris que mon cœur aussi avait besoin de cette semence. Même un enfant peut le comprendre. À plus forte raison, vous, cet après-midi, qui ne connaissez pas le Seigneur, mais qui accepter de recevoir cette parole. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'essaye de produire du fruit par moi-même, mais j'essaye d'aimer et puis il n'y a que de la haine. J'essaye de ne pas me mettre d'être en paix avec les uns et les autres et puis je me mets en colère. Le fruit que les hommes essayent d'avoir, ça ne sera jamais comparable au fruit de la parole de Dieu dans notre vie. Alors repentez-vous et dites, Seigneur, oui, je veux accueillir ta parole. Je veux que ton Saint-Esprit puisse arroser tout cela dans ma vie pour porter du fruit devant toi. Merci Éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ces instants. Merci pour ta parole que nous pouvons lire, que nous pouvons entendre, que nous pouvons, Seigneur, écouter avec attention dans ces instants. Merci pour ce lieu dans lequel nous pouvons nous réunir, Seigneur, pour partager ces choses, alors que tant et tant de frères et sœurs sont démunis de par le monde, n'ont même pas un évangile, n'ont même pas une Bible entre les mains, Seigneur. Nous voulons non seulement l'avoir entre les mains, mais nous voulons prendre garde à la manière dont nous l'écoutons, Seigneur. Et nous te demandons, dans ces instants, que par le Saint-Esprit, tu puisses ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions la saisir jour après jour, et que notre cœur puisse porter du fruit, Seigneur, ces œuvres que tu veux que nous fassions. Oui, Seigneur, nous voulons les faire pour ta gloire, afin que nos vies portent ce bon fruit et ce bon témoignage autour de nous, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que les hommes qui sont autour de nous puissent attester qu'il y a ce fruit divin qui est dans notre vie, alors que ce monde est dans une sécheresse immense, alors que dans ce monde est dans une chaleur incroyable, à cause de l'épreuve, à cause de la tribulation qui approche aussi. Seigneur, nous pouvons, nous, venir puiser à ces eaux vives et porter ce fruit miraculeux dans nos vies, alors que ça soit le cas dans ces instants et tout le long de notre vie, Seigneur. Amen.